Le CAC 40 affiche actuellement un gain modéré de 0,64%. Il est à 3402 points. Et puis, sur le marché des changes, dans l'attente de la publication ce soir du livre beige de la Fed, ce rapport qui dresse un bilan de santé de l'état de l'économie américaine toutes les 8 semaines, eh bien, l'euro, lui, s'est stabilisé à 1,1960$. Sur le front des valeurs, à noter que ADS est encore en tête du CAC 40 avec un gain de 3,98% devant Saint-Gobain, plus 2,26%, et Société Générale, plus 2,14%. Plus forte baisse du CAC 40, Vivendi ne cède que 0,21%. Voilà, je vous rappelle le CAC, plus 0,64% à 3402 points. C'est Antoine Berlin, la Bourse de Paris pour France Inter.
Les questions du mercredi. Une émission de France Inter et du journal Le Monde, avec Dailymotion, tous les mercredis à 19h20. Jean-François Aquili.
Deux invités ce mercredi pour répondre à cette question. Où est passé le centre ? Jean-Louis Bourlange, centriste indépendant, ancien député européen, et Jean-François Cirinelli, directeur du Centre d'histoire de Sciences Po. Retrouvez-les dans les questions du mercredi.
Une émission présentée par Jean-François Aquili avec Françoise Fressos du Monde, ce soir à 19h20. France Inter, partenaire du numéro spécial des Inrecuptibles, guide festival de l'été. Musique, cinéma, expo, art vivant, une sélection de plus de 300 festivals région par région, en France, en Europe et dans le monde. Les Inrecuptibles, guide festival de l'été, avec France Inter et sur franceinter.com. France Inter et l'Orchestre National de Lille avec Jean-Claude Casatsu présentent la 7e édition de Lille Piano Festival du 11 au 13 juin. À l'honneur, les compositeurs et les pianistes russes, le bicentenaire de Schumann, Aldo Ciccolini, Nikolai Lugansky, entre autres. Et en direct le 11 juin à 16h, Carrefour de l'Odéon. Le 13 juin à 20h, le concerto numéro 3 de Rachmaninov. Et sur France Inter à 21h. Renseignements, franceinter.com. France Inter.
La différence.
10h06 sur France Inter, on retrouve Isabelle Giordano pour Service Public, bonjour.
Bonjour Corinne, on parle cinéma, mais pas seulement, on va parler aussi d'un vrai sujet d'actualité, et avec nous, entre autres, invité Romain Goupil, qui est en ce moment quelque part entre la maison de la radio et France Inter, il arrive. À tout à l'heure Corinne,
à
on se retrouve à 11h pour un autre point sur l'actualité. Bonjour à tous et bienvenue dans Service Public. Connaissez-vous Milana d'origine tchétchène? Sinon, eh bien, vous n'allez pas tarder à en entendre beaucoup parler, car elle est au cœur du dernier film de Romain Goupil qui met en scène une bande de jeunes écoliers, qu'on dirait tous trois sortis des 400 coups, confrontés à l'expulsion d'élèves sans papier. Eh bien voilà, qui nous a donné envie de réfléchir ce matin aux conditions d'accueil des étrangers en France par les différents services publics. Car certains parlent carrément d'un service public au rabais. Sécurité sociale, préfecture, ont-ils des pratiques dégradantes, humiliantes? Comme le pointe un rapport récent. C'est le débat du jour.
Milan. Youssef a été expulsé car sa famille n'avait pas de papier.
T'es pas française?
Maintenant tu ne me tues plus, d'accord? T'es ma sœur.
Non, s'il vous plaît. Il y a 5 enfants menacés à aider.
Peut-être qu'il serait plus prudent dans l'urgence d'accueillir les enfants dans nos familles.
Et elle reste combien de temps?
Je sais pas, on l'accueille.
Franchement, ça veut dire quoi? Approuver des parents qui instrumentalisent leurs gosses pour en faire des otages pour avoir leurs papiers? C'est ça, la bonne conscience?
Hippolyte Girardot, Valéria Bruni-Tedeschi, entre autres, les acteurs du film de Romain Goupil, Les mains en l'air, qui sort en salle aujourd'hui même. Trois invités ce matin autour de la table de service public. Romain Goupil qui arrive dans une minute, Richard Moyon, que l'on attend également incessamment sous peu, du réseau Éducation sans frontières, et Jean-Paul Delevoye, le médiateur de la République. Bonjour, merci d'être avec nous.
Bonjour madame.
Vous êtes l'auteur, entre autres, parce que vous êtes vraiment un spécialiste des relations entre les usagers et les administrations, donc vous allez pouvoir nous dire justement s'il y a un problème entre ces conditions d'accueil réservées aux étrangers, qui sont des citoyens tout de même, comme les autres, même s'ils sont étrangers. Est-ce qu'il y a un problème entre ces citoyens et les différents services publics? Mais par ailleurs, l'année dernière, vous étiez l'auteur, enfin vous avez supervisé un rapport, vous dénonciez l'excès de zèle, la prudence exagérée qui a entraîné une sorte de cacophonie, de pagaille, au sein notamment de différentes préfectures. Il s'agissait du renouvellement des papiers d'identité de certaines personnes qui étaient françaises, bien françaises, mais qui étaient amenées à devoir le prouver. Donc j'imagine que vous aurez un point de vue à nous donner là-dessus, hein, pas seulement sur les conditions d'accès aux différentes informations hein, des étrangers. Merci donc d'être avec nous. On accueille Romain Goupil qui vient juste de rentrer dans ce studio. Vous étiez au micro de Nicolas Poincaré il y a quelques minutes, je crois. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur, on vient d'en parler, on vient d'en dire un tout petit mot de ce film qui sort sur les écrans aujourd'hui, dont on commence à beaucoup, beaucoup parler, cette petite Milana d'origine tchétchène. Bientôt, j'imagine qu'elle va devenir célèbre. Hein. En tout cas, vous pourrez nous raconter dans un petit instant ce qui vous a poussé à organiser, à faire ce film. Hein. En tout cas, nous, ça nous a inspiré l'organisation de ce débat ce matin. Moi, je vous propose de démarrer tout de suite par Dorothée Barba. Dorothée, bonjour.
Bonjour.
Notre reporter qui, tout simplement, a voulu voir hein, de ses propres yeux comment s'effectuait justement cet accueil réservé aux étrangers dans un service public. Il s'agit de la Sécurité sociale et très exactement situé à la Pitié-Salpêtrière à Paris, donc à côté de cet hôpital. Les étrangers qui doivent faire la queue la moitié de la nuit à l'entrée de l'hôpital pour obtenir tout simplement le droit d'être soignés parce que c'est leur droit, tout simplement.
Oui, ça s'appelle l'aide médicale d'État, l'AME. C'est un dispositif proposé aux personnes en situation irrégulière, aux sans-papiers, qui n'ont ni la Sécurité sociale ni la CMU. Alors l'AME leur offre un accès aux soins en médecine de ville ou à l'hôpital. Alors pour l'obtenir, il faut se rendre dans l'un des points de contact de la Sécurité sociale. Et certains donc sont situés dans les hôpitaux, notamment à la Pitié-Salpêtrière. Alors je suis arrivée à 5h du matin ce lundi.
5h du matin.
Et il y avait déjà 4 personnes qui faisaient la queue. Alors pas pour se faire soigner, hein, mais pour obtenir le papier de l'aide médicale d'État, et c'est renouvelable tous les ans, donc la plupart reviennent tous les ans depuis des années. Assis par terre dans le sas d'entrée, puisque l'accueil de l'hôpital est fermé la nuit, j'ai rencontré Mamadou, 35 ans. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes là depuis quelle heure?
Moi je suis là depuis 4h, 4h du matin.
Là il est 5h05.
Ah oui.
Qu'est-ce qui vous a dit d'arriver si tôt?
La dame qui travaille ici, là, j'étais venu à 7h. Elle m'a dit c'est trop tard, faut que je sois là 3h, 4h, sinon je trouve pas. J'ai mis mon nom sur la liste.
Elle est où la liste?
La liste, c'est avec le dossier. J'étais là à 4h, je suis 4e personne.
Oui, il y a 3 noms avant vous.
Hein? Oui, oui.
Vous êtes de quelle origine, monsieur?
Moi, je suis malien.
Malien?
Oui, malien.
Et vous êtes depuis combien de temps en France?
Moi, je suis là depuis 99.
Vous avez des papiers dans un petit sac plastique.
Oui, oui. Voilà, un passeport obligatoire.
Le passeport malien.
Oui, oui. Ouais. Et puis, il faut montrer 3 mois que tu es dans le pays.
Ah, donc, justificatif de résidence en France depuis 3 mois.
Oui, 3 mois.
Alors, comment vous prouvez ça? Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est une facture.
Oui, oui, ça, c'est une facture. Et puis, certificat de domicile.
Attestation d'hébergement.
Voilà.
Bonjour.
Bonjour monsieur. Vous arrivez pour mettre votre nom sur la liste?
Oui.
Bon, on va attendre ensemble. Hein.
Attends.
Ah. À quelle heure elle arrive, la dame de l'assistance sociale?
8h.
8h? On va voir le jour se lever à la Pitié-Salpêtrière. Il est 6h20, il y a déjà 11 personnes sur la liste.
Ah oui.
Ça va vite, hein?
Ah oui, ça va vite.
Je suis Jacqueline et je suis la marraine d'une jeune majeure du réseau Éducation sans frontières, RSF. On veut les décourager, on leur donne des espoirs, mais en fait, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Voilà. Ça y est, c'est la bagarre, vous voyez, maintenant, il est 6 heures du matin et ils se bagarrent. Voilà.
Voilà, une violente dispute vient d'éclater puisqu'un homme qui est arrivé avec le premier métro à peu près à 6h du matin, il découvre qu'il est 15e sur la liste d'attente. Or il voit que 6 personnes dans le sas d'entrée, donc il dit je suis 7e, et on commence à se bagarrer, on s'arrache la liste des mains. Et donc on en vient à se battre, et c'est Marcel, la très souriante Marcel, qui rétablit le calme à l'entrée de la Pitié. Vous recopiez la liste du coup?
Oui. La
liste a été déchirée, ouais, dans la bagarre.
C'est un soulard, hein?
Mais le mieux, c'est de faire la liste. En fait, si elle prend la liste,
il y a certaines qui refusent.
Oui, il y a certaines qui refusent. Parce que d'autres peuvent arriver aussi vers midi et puis ils vont dire qu'ils étaient là, alors que nous, on est arrivé depuis 6h ou 5h du matin. C'est pour ça qu'on fait une liste. Quand on arrive ici, à 6h, qu'on attend jusqu'à ça s'ouvre, je ne sais pas, 8h30 ou 9h, imaginez, il n'y a pas de banc, il n'y a rien. Peut-être c'est juste une manière aussi pour montrer si tu es vraiment motivé, que tu en as besoin, tu restes.
Donc à votre avis, c'est pour décourager les gens?
Oui.
Vous êtes de quelle origine, vous?
De la Côte d'Ivoire.
Vous avez quel âge, Marcel?
Là, j'ai 31 ans.
Le sourire jusqu'aux oreilles.
Ouais, il faut toujours être positivé. J'ai eu la chance d'avoir cette aide médicale parce que je me suis fait opérer 2 fois. Je travaille pas, j'ai pas de papier, j'aurais fait comment pour payer? Donc, c'est pour vous dire que venir là, c'est rien. Ça vaut le coup, sur une année, c'est rien.
Voilà, 4, 5, 6 heures, 7 heures du matin, petit à petit, on a plus d'animation dans le hall d'entrée de l'hôpital, la cafétéria qui ouvre, les personnels de l'hôpital qui arrivent. Et on est toujours avec Jacqueline, la militante de RESF. Il est presque 7 heures, on a une aide d'honneur de sans-papiers qui accueille les salariés de la pitié.
Debout, avec une dame qui a un bébé sur les bras. Mettre des bains, là, je ne sais pas moi, c'est inhumain.
Et on a combien de personnes sur la liste, Mamadou?
Bon, il y a 24 personnes sur la liste.
Il y aurait un minimum de choses à faire assez simples, comme par exemple mettre un rouleau avec des numéros, qu'on mettra en fonction, je ne sais pas, à 8 heures, pour pas que les gens aient cette nécessité aberrante de venir à 4h30 du matin. Ça simplifierait quand même les choses. Je ne pense pas que ça demanderait des dépenses astronomiques, mais sans doute la volonté n'est pas là. Par exemple, arrive une Française donc d'origine algérienne qui vient pour sa grand-mère. Ben, la grand-mère, elle est debout, elle a, je sais pas, près de 70-75 ans. Imaginez, cette pauvre dame ne peut pas venir à 4h30 toute seule, comme ça.
Oui, c'est la dame qui vient d'arriver, là, qui est assise dehors.
Oui, c'est ça.
Il est 9h20, l'assistante sociale vient d'arriver.
Vous êtes d'accord pour faire une analyse ou pas?
Oui.
Alors, Ali Saïd Mohamed, Diakité Mahamadou, Vagne Gandioubou. Alors, vous courez.
C'est raté pour vous, monsieur?
Oui, c'est raté. Vous savez, j'ai accompagné ma mère, elle a 84 ans. Je suis là depuis 6h15 et là, j'étais en 17e position. Elle a refusé de nous prendre, elle a dit c'est plein. Elles prennent 15 personnes, franchement, c'est trop juste. On n'a pas de papier, hein. on n'est pas considéré comme des êtres humains à part entière.
Voilà, la personne de la sécurité sociale qui recevait les gens ce matin-là donc, n'a pris que 15 personnes. Or, il y avait 25 personnes qui attendaient depuis 5 heures
du
matin.
Un jour c'est 15, un jour c'est 20,
voilà.
Ça change. Et c'est comme ça tous les jours.
Voilà, donc elle a refusé de me répondre au micro. Donc j'ai appelé l'assurance maladie. On m'a répondu que ces problèmes d'accueil étaient connus. La sécurité sociale est en train de réfléchir à des moyens d'arranger les choses. En tout cas, ce serait dû à un afflux de demandes à Paris. Il y a 65 000 bénéficiaires de l'aide médicale d'État dans la capitale. Ça représente plus d'un tiers du chiffre national.
Et je dois dire que vous êtes revenu de votre reportage assez impressionné, hein, fatigué bien sûr. Vous êtes resté de 4h du matin à 10h pratiquement sur place. C'est comme
choqué.
Ça tous les jours et choqué par ces conditions d'accueil.
C'est vraiment des conditions d'accueil inimaginables. Ça donne l'impression, comme le disait Marcel, qu'on veut décourager les sans-papiers d'obtenir cette aide médicale d'État à laquelle ils ont droit. Alors on leur conseille de venir à 4h du matin. Les gens dressent eux-mêmes des listes qui sont complètement informelles. Donc c'est vraiment la porte ouverte à la loi du plus fort. Si on peut se bagarrer un peu pour être en meilleure position, on le fait. Les listes, d'ailleurs, elles sont acceptées ou pas par l'agent de la sécurité sociale. Certains matins, on ouvre la porte en disant non, il n'y a pas de liste. Le premier arrivé, enfin voilà, c'est le chaos total. Et les matins où on refuse la liste, hein, je vous laisse imaginer l'ambiance qu'il peut y avoir à la sécurité sociale, comme d'ailleurs dans la cinquantaine de points d'accueil de la Sécu pour obtenir l'AME.
Merci beaucoup Dorothée Barba pour ce reportage. Alors est-ce qu'il s'agit d'un service public au rabais, comme le disent donc certains? Avant de passer la parole au médiateur de la République, j'aimerais bien avoir le sentiment de Robin Goupil en écoutant ce reportage. Il y a ce même sentiment d'indignation et de colère qu'il y a dans votre film « Les mains en l'air ».
Oui, mais là, comme l'expliquait Dorothée, c'est un des services. Mais après, sur le renouvellement des papiers, c'est la même chose. Sur le logement, c'est encore pire. Sur Bobigny, c'est un enfer. Tout est fait, elle le dit.
C'est un exemple parmi d'autres, oui.
C'est pour décourager.
C'est vraiment ça, d'après vous, l'objectif?
Ah, mais c'est pas ça, c'est que ça. C'est-à-dire que vous avez des discours au niveau des principaux responsables politiques de ce pays qui vont dire les trois I. Immigration, illégalité, insécurité. Vous répétez ça à l'infini. Au bout d'un moment, vous réduisez le message, vous faites immigration égale insécurité. ça veut dire quoi en traduction? À force d'entendre ça, c'est immigration égale délinquance, étranger égale délinquant. Et là, on a une Jacqueline qui est particulièrement, qui a l'air d'arranger les choses avec sa liste, mais vous avez des fonctionnaires qui sont, eux, les étrangers, ou ceux qui viennent, ils viennent prendre quelque chose, ils viennent voler, ils viennent contre, c'est des antinationaux. Parce que vous rajoutez le quatrième I qui est identité nationale et vous opposez les illégaux, les délinquants qui créent de l'insécurité à l'identité nationale où nous, on serait ceux à qui on doit tout. Et les plus pauvres, les plus démunis, les laissés pour compte, c'est des délinquants, c'est des étrangers, c'est des ennemis. Mais ça crée un climat terrifiant qui font qu'ils font rien pour aménager, rien, tout pour décourager. C'est vraiment tout pour décourager, alors que l'honneur du politique, l'honneur de votre travail, c'est justement de faire en sorte, on sait tous qu'il y a des problèmes, de faire en sorte d'essayer de vivre ensemble, avec tous les trucs compliqués. Là, ils prônent de manière nationale, dans tous les discours, la façon d'exclure, la façon d'opposer, la façon de dire « on peut pas vivre ensemble, ils sont délinquants, c'est des illégaux, et on va les raccompagner, on va faire même des quotas. » 29 000, on décide avant que 29 000 vont être accompagnés à la frontière. Mais 29 000, ouais, comme ça, c'est un chiffre, c'est rigolo. C'est pas du tout rigolo. Ça veut dire que ils vont diviser la France par préfecture en zones. Et que dans ces zones, ça veut dire que Orléans, c'est 12. Que Montpellier, vous devez en trouver 17. Mais que les gendarmes, qui ont quand même autre chose à faire, que les policiers, qui ont quand même autre chose à faire, vont aller chercher ces quotas. En fonction de choses qui sont simplement fixées politiquement pour un effet d'annonce. Parce que parallèlement à ça, bien sûr qu'ils régularisent, bien sûr qu'on sait tous qu'il y a les sans-papiers, mais pour faire plaisir au pire du pire dans ce pays, pour séduire politiquement le pire du pire, tout ce qu'il y a de moisi, tout ce qu'il y a de rance, tout ce qui est raciste, tout ce qui... qu'on a tous voté contre autour de Chirac, on était 85%. Pour séduire cette frange-là, ils sont en train de transformer ce pays, et c'est le film raconte ça, de manière indigne, absolument indigne. Et le comportement, votre reportage prouve ça, mais si vous alliez à Bobigny, si vous alliez à la préfecture de Paris, si vous alliez partout, on l'en signifie, et les contrôles.
Alors justement, j'aimerais bien savoir avec Jean-Paul Delevoye si ce qu'on vient d'entendre, et ce qu'on vient d'entendre également dans la bouche de Romain Goupil, est-ce que c'est général, ou est-ce que ce problème de difficulté d'accueil des étrangers, est-ce qu'il est limité à la région parisienne d'après vous? Qu'est-ce que vous constatez dans votre bureau et avec vos délégués sur le terrain?
Je pense qu'il faut qu'on soit extrêmement sensible sur les conséquences politiques des situations dans lesquelles nous vivons. Nos élus politiques sur le plan mondial, vont passer d'un moment où ils répartissaient les fruits des croissances promesses électorales à la répartition des efforts. Et l'on voit la traduction que cela donne en Hollande, votre reportage tout à l'heure le montrait, en Autriche, en Italie du Nord, en Chine, dans lequel ce que j'appelais le racisme social, c'est-à-dire je me sens bien, j'ai pas envie de partager avec l'autre, se transforme en racisme territorial, je veux dire je suis une province riche, je veux pas payer pour les provinces pauvres. Et l'on a des tensions qui sont en train de monter, et qu'effectivement, les discours politiques peuvent flatter les plus bas instincts ou soutenir les causes les plus belles. Et il faut trouver un juste équilibre entre le respect d'une loi pour le vivre ensemble et la bonne conscience qui fait qu'à l'évidence, le 21e siècle, c'est le siècle de la diversité et de la rencontre avec l'autre, et que le drame du 21e siècle, c'est l'isolement dans lequel on enferme un certain nombre de gens, et pas uniquement étrangers. Les gens qui sont en précarité sont aujourd'hui extrêmement isolés et donc extrêmement fragiles. Et c'est la raison pour laquelle, dans mon rapport, j'avais indiqué que la France n'est pas usée physiquement, elle est usée psychiquement. Deuxième élément, c'est que l'espace public à la française, et notamment avec la jurisprudence européenne, est un espace qui doit assurer la neutralité. Nous sommes dans une société de normalisation, après avoir passé dans une société de culpabilisation. Et on a fait des normes dans lesquelles vous êtes dans les normes, c'est bien, vous n'êtes pas dans les normes, c'est pas bien. Alors si vous êtes handicapé, c'est pas bien, si vous êtes chômeur, c'est pas bien, si vous êtes surendetté, c'est pas bien, si vous êtes sans papier, c'est pas bien. Donc il y a une espèce de norme. La noblesse de la France, c'est de faire en sorte que, quelle que soit votre situation, même si à la limite, il faut expliquer une décision compliquée. Vous n'êtes pas dans la règle, il faut vous renvoyer. Les choses sont claires.
Autant c'est d'assurer, faire avec un peu d'humanité.
C'est d'assurer, pas uniquement de l'humanité, c'est d'assurer la neutralité. Mm-hmm. Un respect identique à la personne humaine. Le combat pour la dignité de la personne est important.
Et vous pensez que là, ce n'est pas le cas vis-à-vis des étrangers?
La culture administrative française, mais depuis de très longues dates, a mis en place le traitement de masse et a négligé l'accueil et la réclamation. Et c'est l'accueil pour les sans-papiers, c'est encore plus préoccupant, mais c'est aussi l'accueil pour les Français. Et qu'aujourd'hui, on a un combat compliqué sur les services publics, c'est le refuge derrière les appels téléphoniques, les plateformes téléphoniques. Tapez 1, tapez 2, tapez 3, vous trouvez personne. Donc on a une diminution des relations humaines dans l'accueil du service public. Et je crois que le minimum du minimorum, c'est d'organiser l'accueil. Pourquoi il y a cette tension? Pourquoi il y a cette compétition? Pourquoi même il y a des métiers nouveaux? On m'a signalé il y a déjà 2 ans qu'il y a des gens qui vont à 4h du matin réserver les places et qui ensuite négocient financièrement la place.
Oui.
Attendez, c'est incroyable. Donc c'est le système qui génère cette déficience. Et donc, de grâce, si on pouvait faire en sorte qu'au lieu que le système se protège, que je peux comprendre, c'est comment faire en sorte que le système s'adapte à la situation des gens. Et quand les CAF sont débordés, ils ferment. Et les gens se retrouvent devant des portes closes. Quand les caisses de sécurité sociale, on a cette espèce de compétition, mais vous avez aussi sur les préfectures. À la préfecture Saint-Denis, moi, mes délégués m'alertent, et même maintenant, ils ont du mal quelquefois à avoir des réponses de la préfecture. Donc, réfléchissons à une organisation rationnelle, comme vous l'avez dans les hôpitaux. Vous allez dans les hôpitaux, il y a un rouleau, vous arrachez votre papier, vous avez un numéro, le numéro s'affiche, vous êtes reçu. Et s'il y a trop de personnes, 30 personnes, et on peut en prendre que 15, faisons en sorte que par un système de convocation, on puisse dire aux 10 supplémentaires, bah écoutez, on peut pas vous prendre aujourd'hui, on vous donne rendez-vous à tel jour, telle heure, de façon à ce qu'il n'y ait pas cette espèce de... Vous imaginez, c'est une compétition, presque pour une survie individuelle. Le service public n'est pas là pour ajouter une souffrance à une souffrance, il est là au contraire pour être un facteur d'écoute, d'empathie et d'apaisement dans une société en tension.
Et des solutions, il en existe hein, pour améliorer ces conditions d'accueil des étrangers. On parlera dans un petit instant d'un rapport qui a été fait par la CIMAD, une association donc caritative, une association qui propose une dizaine d'idées pour améliorer ces conditions d'accueil. On continue notre débat en compagnie de Romain Goupil et à partir de 14h, hein, rendez-vous dans les salles pour Les Mains en l'air. N'hésitez pas à aller voir ce film qui est présenté dans son Vincent Alain, c'est ça Romain Goupil, en France, partout en France,
oui,
une bonne centaine de salles.
Oui, dans une bonne centaine de salles, ce qui veut dire que on pense, on espère que le film va avoir une audience plutôt large. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Mais on espère des tas de choses
Et qui suscite un débat aussi.
Ouais, mais on espère des trucs bizarres, nous. Comme réalisateur, par exemple, j'espère qu'il va faire mauvais. Donc, il va pas avoir une bonne météo. J'espère que la France va perdre à la Coupe du Monde. On n'est pas très très gentil. J'espère que les autres films de mes collègues ne vont pas marcher, par exemple. C'est pas beau. C'est vraiment
Merci
pas beau.
Merci pour cette franchise. 01 45 24 7000. On prendra également les questions des auditeurs de France Inter dans un instant en ligne. Et vous pouvez bien sûr vous exprimer sur franceinter.com. Je vous propose d'écouter Harper Simon. Je ne sais pas si vous connaissez Jean-Paul Delevoye et Romain Goupil. C'est le fils de Paul Simon qui signe un premier album solo très très remarqué. Il l'a enregistré entre Nashville et Los Angeles avec pas mal de musiciens du Tennessee, enregistré également avec un autre fils de... C'est pas le fils de Romain Goupil, non, pas encore, c'est le fils de Sean Lennon. Allez, on écoute.
Isabelle Giordano, 01 45 24 7000. Everyone seems so certain. Everyone knows who they are. Everyone's got a mother and a father. They all seem so sure they're going far. They all got more friends than they can use. Except me, 'cause I'm a fool. I'm simple as a bee, as a melody in C, but it don't matter. There are more wishes than stars. Every guest so pleased with themselves. They're brimming with success. Their whole life's been blessed, but it doesn't matter. Everyone's been on holiday and song. Well, they just got back from one. All they do is just have fun. Don't matter.
not too certain about many things. I'm not too sure who I am. I ain't got no mother and I ain't got no father. I ain't got no girlfriend to hold my hand. I'm slow like the trees when they grow. I'm sluggish like the ocean when it moves. I'm plain like water or like rain. But I shouldn't complain cause it don't matter. More wishes than stars.
C'est un extrait du dernier album d'Harper Simon qu'on vous fait écouter et qu'on vous conseille surtout sur France Inter. Ce matin, je vous le disais, on a eu envie d'organiser ce débat après avoir vu quelques enfants sur un écran. Ce sont des enfants mis en scène par Romain Goupil, des enfants dignes de ceux de François Truffaut qui nous font sourire mais qui nous font également réfléchir. Il s'agit du film Les mains en l'air, réalisé par Romain Goupil. Il est notre invité face au médiateur de la République, Jean-Paul Delevoye. Et notre débat fait réagir nos auditeurs, pas forcément toujours dans le sens du poil, mais c'est ce qui est bien ici à ce micro en direct. Il y a par exemple Vincent qui trouve qu'on a démarré de manière totalement larmoyante. Soyez incisif et non guimauve. Je suis plutôt de centre-gauche. Je sens que cette émission va être larmoyante et le summum du politiquement correct. Pourtant, Vincent, je m'insurge. Tout de même, on a démarré avec quand même une bonne indignation de Romain Goupil et également de la part du médiateur de la République qui essaye d'être le plus impartial possible dans sa position. Je vous donne aussi une idée de ce qui se passe au standard. Les messages qui nous arrivent. Fanny nous dit, on donne toujours la même image de la France. Il y a des choses à améliorer, on est d'accord, mais il y a également des choses formidables qui sont faites en France. Exemple, on met à disposition des traducteurs dans les hôpitaux. Oui. Sophie à Paris nous dit, les conditions d'accueil des sans-papiers à l'hôpital ne sont pas satisfaisantes. Là aussi, d'accord, mais vous pourriez voir également à quoi ressemblent les conditions d'accueil des chômeurs dans les bureaux assédiques de Paris 18e, sans vouloir opposer sans-papiers et résidents légaux. Êtes-vous sûr que votre exemple serve réellement la cause des sans-papiers? Il y a des soins gratuits à la clé et ce n'est pas le cas dans tous les pays. Voilà une bonne piste de réflexion également pour nous. Mais je voudrais donner la parole également à Marie-Noël. Je vois que Marie-Noël fait partie de ceux qui sont bénévoles pour la CIMADE. Bonjour Marie-Noël.
Bonjour.
Vous nous appelez d'où ?
D'Orléans.
Vous pourriez nous rappeler en deux mots pour nos auditeurs de quoi s'agit-il ? La CIMADE, quelle est son action ?
Bah écoutez, elle est multiple, son action. Elle intervient auprès des étrangers dans tous les moments de leur parcours, depuis leur arrivée sur le territoire jusqu'à leur expulsion, puisque nous accueillons les demandeurs d'asile, nous recevons des familles, nous travaillons beaucoup avec Réseau Éducation Sans Frontières et nous intervenons aussi dans les centres de rétention pour essayer de défendre les droits des étrangers qui sont menacés d'expulsion.
Vous faites donc partie de ces bénévoles et j'ai l'impression qu'ils sont très nombreux.
Oui. Dans les pays où les personnes sont renvoyées et pour accueillir les personnes qui sont expulsées.
Oui, donc vous êtes de plus en plus nombreux tout de même, il faut le dire, ces bénévoles actifs. Comment réagissez-vous quand vous entendez ces propos d'autres auditeurs qui nous disent « Oh voilà, vous êtes larmoyant, politiquement correct, etc. » Vous, je sens à votre voix que vous êtes plutôt active.
Je ne suis pas seulement active, je suis en colère et indignée comme Romain Goupil. Des conditions qui sont faites à des personnes et qui bafouent totalement notre devoir d'hospitalité et d'humanité vis-à-vis de tout être humain et les conditions d'accueil qui leur sont faites. Je suis en ce moment la situation d'une jeune femme qui est arrivée du Mali il y a quelques semaines avec un bébé de 10 mois, une jeune femme de 19 ans qui a eu un parcours d'exil absolument épouvantable puisqu'elle a pris les chemins les plus dangereux pour arriver en Europe. Sa demande d'asile est totalement fondée. Elle est venue ici pour protéger son bébé et elle n'a pas de titre de séjour, elle n'a pas de suivi social, elle a dormi plusieurs fois dans la rue. Quand elle arrive une minute en retard sur le lieu d'hébergement, on lui donne une couverture en lui disant « Désolé, votre place a été donnée, vous n'êtes pas arrivée à l'heure ». Voilà, cette femme, elle est suivie par des bénévoles qui lui donnent de l'argent, qui la préparent à son rendez-vous à l'OFPRA où elle est partie ce matin de bonne heure. avec son bébé sur le dos parce qu'elle ne peut pas trimballer sa poussette avec tous les bagages qui sont dedans. Voilà les conditions qui sont faites à une jeune femme et son bébé aujourd'hui, demandeur d'asile, qui arrive en France.
Merci Marie-Noëlle. Pour aller dans votre sens, nous recevons quelques emails qui vont exactement dans la même direction que vous, Marie-Noëlle. J'ai par exemple Valérie à Trouville qui nous envoie ce message. J'ai accompagné un ami à la préfecture de Nanterre pour le renouvellement de sa carte de séjour. Des queues interminables à partir de 5h du matin, un endroit sale, du non-respect des personnes âgées. J'ai vraiment eu honte d'être française ce jour-là. Romain Goupil et Jean-Paul Delevoye, nous accueillons d'ailleurs en ce moment même Richard Moyon. Bonjour, du réseau Éducation Sans Frontières. On a beaucoup parlé de vous avant même que vous arriviez, donc on va continuer. Mais je voulais juste reprendre un petit peu tous ces propos. Est-ce que dans votre film, Romain Goupil, l'idée c'est pas de dire on va accueillir tous les étrangers à bras ouverts, comme dirait l'autre, toute la misère du monde, mais c'est plutôt juste un peu de bon sens dans la manière de les accueillir.
Oui, mais bon,
et retrouvons un peu le sens de la solidarité.
Bon sens et morale deviendrait presque un gros mot. Et là, sous prétexte de politiquement correct, c'est ça qu'ils veulent dire les auditeurs. Vous êtes politiquement correct. Comme si d'avoir du bon sens ou d'avoir de la morale ou avoir le sens de la solidarité, c'était être politique.
Mais rejoint bien les débats dans votre film. On voit une différence entre les enfants qui, eux, sont très solidaires, eux ont du bon sens, et des adultes qui se chamaillent et qui ne sont pas d'accord, notamment avec les propos tient Hippolyte Girard.
C'est vraiment fondamental. Par rapport au débat, ce qu'on peut faire, c'est-à-dire toute la misère du monde, et là, le reste de la phrase qu'on oublie toujours, on peut y prendre notre part. Et comme parents, comme tous ici, qu'est-ce qu'on va protéger ? On va protéger nos mômes pour qu'ils apprennent à lire, à écrire, à réfléchir par eux-mêmes. Il se trouve que dans des pays qui sont la Tchétchénie, où il y a vraiment eu un génocide et une capitale mais bombardée, on a peu d'exemples d'une capitale bombardée à ce point-là, même pendant la Seconde Guerre mondiale. On a Kigali avec un génocide, des choses épouvantables, Mozambique avec ses enfants qui sont avec ses mines antipersonnelles. Il y a plein d'endroits où il y a eu des drames, des massacres. Ces enfants arrivent après des parcours compliqués en France. C'est des enfants qu'on protège. Mais eux, par les cicatrices, les blessures, la mémoire, perdre un parent, perdre la famille, ils sont les plus faibles des plus faibles. Et on a la chance, le truc absolument incroyable, soit dans les classes, apprennent à lire, aillent à la piscine avec nos mômes, soient invités au goûter, apprennent à écrire, apprennent à lire, apprennent à compter. Mais c'est un rêve, c'est notre honneur, c'est vers ça. Je sais qu'on peut pas tout, mais cela, en tout cas, ne faites pas ce que vous êtes en train de faire des décrets pour aller les chercher dans les classes, aller les reconduire à la frontière et les renvoyer dans des pays où c'est épouvantable. Mais ça, c'est quand même... Ok, politiquement correct. Ok, c'est moral. Ok, c'est de la solidarité. Si pour certains auditeurs, c'est des insultes, pour moi, c'en est pas. C'est l'honneur de ces enfants de se dire, on ne dénonce pas, on protège la plus faible, et la plus faible des plus faibles, c'est la petite Milana, en l'occurrence.
Est-ce qu'on pourrait justement essayer de comprendre aussi pourquoi il y a ce dysfonctionnement ? Pourquoi est-ce qu'il y a cet embouteillage, ces files d'attente ? Est-ce qu'on arrive à évaluer la situation ? Est-ce qu'on arrive à la comprendre ? C'est peut-être déjà aussi une façon de se comprendre les uns les autres. Jean-Paul Delevoye ou Richard Moyon, vous qui faites le constat aussi avec Réseau Éducation Sans Frontières tous les jours.
D'abord, je pense que l'administration, et même nos pays, n'était pas forcément préparé à cette aggravation des inégalités dans le monde, avec cet écart de richesse et de précarité, avec cette montée dont on ne parle pas beaucoup, parce que nos consciences sont dirigées par les médias, d'un certain nombre de drames qui se passent dans un certain nombre de pays et qui font qu'effectivement un certain nombre de personnes n'ont plus envie de rester chez eux, mais de pouvoir revenir, et notamment que pour ces gens-là, la France est un havre de paix, etc. Deuxième élément, c'est vrai qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, même si on doit y prendre sa part. Troisième élément, le continent européen. Moi, je me suis battu, par exemple, je suis allé voir la situation des mineurs dans l'Est, après la jungle de Calais. Bon. Et nous avons mobilisé, auprès de Jacques Barrot et l'ensemble des ombudsman, de se dire, l'Europe trouverait sa dignité à créer un fonds européen pour les mineurs étrangers isolés. Parce que qu'est-ce qui est en train de se passer aussi ? Dans l'accueil, c'est un combat entre l'État et les conseils généraux pour savoir celui qui va payer. Le vrai sujet, c'est qu'on est sur un débat sur les conséquences budgétaires, pas un débat sur les conséquences morales et philosophiques.
On est bien d'accord qu'aujourd'hui, il manque des fonctionnaires pour gérer cette situation.
Et qu'aujourd'hui, la présidence espagnole doit réfléchir à la mise en place d'un fonds européen de la protection des enfants. C'est la Convention internationale de la défense des droits de l'enfant.
Donc on va aller frapper à la
porte. Deuxième élément, ce que vous disiez, c'est que on peut avoir une loi, mais il faut que l'application soit respectueuse d'une éthique. Moi, je me suis battu pour qu'effectivement, quand les gens viennent chercher au service public un renseignement, il n'y ait pas derrière des gendarmes ou des policiers pour les appréhender. Le service public s'assure la neutralité et la protection de la personne, ça c'est la dignité du service public. Et qu'à l'évidence, on voit bien que dans le film que vous êtes le vôtre, les enfants, attention à la fragilité de nos enfants. Ils découvrent la cruauté du monde. Comment voulez-vous qu'ils adhèrent avec enthousiasme à une société aussi cruelle? Deuxièmement, toutes nos politiques publiques les mettent en situation d'échec. C'est le débat actuellement sur la problématique de l'échec scolaire. Et troisième élément, on leur fait comprendre, au moment où le monde du 21e siècle, le monde de la diversité, qu'il y a des gens qui ont le droit d'être des copains, et des gens qui n'ont pas le droit d'être des copains. Et je pense que là, il faut qu'on réfléchisse à ce que peut-être il y ait des règles très précises, qu'on les applique sans concession, si jamais elles sont bien évidentes, mais qu'à l'évidence, au niveau des enfants, lorsque les enfants sont dans un cursus d'insertion, on ne fragilise pas cette dimension de l'avenir de notre société.
Richard Moyon, je ne vous ai pas encore entendu. Donc, pour Réseau Éducation Sans Frontières, en un mot, est-ce que vous expliquez ce dysfonctionnement dans l'accueil réservé aux étrangers par les différents services publics? Comment vous l'expliquez?
Alors, je crois d'abord qu'il y a un problème général d'accueil dans les préfectures, en tout cas en Ile-de-France. Il y a deux jours, la queue pour les permis de conduire à la sous-préfecture d'Antony, il y a un panneau qui affichait « Attente 136 minutes ». Donc, c'est là, il s'agit de toute la population et pas simplement des étrangers. Et il y a un problème général en Ile-de-France, en tout cas pour les étrangers, où à Bobigny, les queues commencent à minuit. À Nanterre, ça doit être à peu près du même ordre. À Antony, c'est à 5h du matin. Et c'est absolument récurrent. Et tout le monde, en tout cas personne, n'y fait rien.
Donc il faudrait plus de fonctionnaires.
Il faudrait plus d'organisation.
Enfin non, d'ailleurs, c'est pas une affaire de fonctionnaires. Qu'on me donne le tampon nécessaire, qu'on me mette entre les mains le tampon de donnant les titres de séjour, et je vous garantis que ça ira beaucoup plus vite. Parce que la réalité, c'est que les démarches sont d'une méticulosité et d'un tatillon qui fait que c'est extrêmement long. Et il y a d'autre part toute une part d'improvisation de la part des employés de préfecture. Selon le guichet et selon l'employé, l'issue est différente. Et selon les préfectures, évidemment, parce que chaque préfet est maître en son royaume et dicte ses propres réglementations.
Alors, parmi les auditeurs qui nous écoutent et qui nous appellent, il y a également des gens qui travaillent pour les services publics. C'est le cas d'Abiba, conseillère municipale à Nanterre. Elle va pouvoir nous donner son point de vue. Bonjour, Abiba, je vous écoute. Comment ça se passe chez vous à Nanterre? Alors, racontez-nous ça de votre point de vue.
Oui, alors moi je suis conseillère municipale, je ne travaille pas, enfin je suis juste, je suis élue à la ville de Nanterre, donc je voulais saluer le médiateur Romain Goupil et puis Richard Moyon que nous connaissons bien sur le département des Hauts-de-Seine, parce que nous faisons partie d'un collectif départemental de soutien des sans-papiers.
Vous, en tant que conseillère municipale, vous êtes engagée dans le combat de soutien aux sans-papiers?
Tout à fait, dans les Hauts-de-Seine. Et donc, nous avons déjà fait plusieurs rassemblements devant la préfecture des Hauts-de-Seine pour réclamer des conditions dignes pour les sans-papiers à l'accueil, pour leur accueil. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les sans-papiers qui viennent déposer une demande de dossier de régularisation n'ont pas de preuve de dépôt. C'est-à-dire qu'ils viennent avec tout leur dossier déposé et n'ont pas de reçu, ne savent pas. Donc, on n'a pas de date de départ. C'est-à-dire que même si ils doivent faire un recours ensuite, ils n'ont pas de date de départ pour le recours, c'est donc au bon vouloir.
Donc vous diriez un petit peu dans le même sens de ce qu'on vient de dire, c'est pas forcément un manque de personnel, c'est plutôt une totale désorganisation.
C'est tout à fait ça. Il y a des choses sur le manque de personnel, il y a d'autres choses aussi sur l'organisation. Donc là, on n'a pas de preuve de dépôt, et je pense que dans n'importe quelle administration, pour n'importe quel administré, on va faire le nécessaire pour répondre à leurs besoins. Là, une preuve de dépôt, on aurait pu le faire dans d'autres administrations. Là, pour les sans-papiers, ils n'ont pas de preuve de dépôt. Ça, c'est un des points qu'on avait réclamé la dernière fois. D'autre part, j'ai bien entendu Marie-Noël tout à l'heure de la CIMAD, où vous disiez aussi qu'il y avait énormément de personnes qui accompagnaient, des bénévoles qui accompagnaient les sans-papiers à la préfecture. Il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, à la préfecture des Hauts-de-Seine, c'est refusé. C'est-à-dire que les personnes qui arrivent avec les sans-papiers pour les accompagner, on leur demande de rester à l'extérieur. Donc ils refusent d'être accompagnés. Et ça, c'est inacceptable.
Romain Goupil, je vous voyais aussi, hein, hocher de la tête, vous aussi, vous trouvez ça inacceptable.
Non, non, mais moi, quand le problème des fonctionnaires, ou dire, mais c'est bien pire, ils utilisent les fonctionnaires et plusieurs services pour décourager, empêcher, casser. On a un exemple très précis sur, en ce moment, les gens qui ont leur fiche de paye, qui veulent travailler, on s'en occupe avec le réseau RESF et Richard Moyon, de toute la grève des 6000, qui ont tous leur fiche de paye, qui sont appuyés par certains patrons qui disent, mais régularisez-les. Tout est fait pour les empêcher d'avoir leurs papiers et de bénéficier de droits alors qu'ils payent leurs impôts, alors qu'ils sont taxés. Que tout est fait pour donner un signal, un effet d'annonce au pire de ce pays, au détriment de tous ceux qui voudraient que ça s'arrange, ou essayer au moins que ça fonctionne. Et on utilise des fonctionnaires pour faire la queue, répondre à côté, dire vous avez oublié ce papier, pour faire monter une tension, et en plus ça va être différent d'un guichet à l'autre, c'est insupportable. Tout est fait pour envoyer ce signal-là. Tout est fait pour dire vous n'êtes pas le bienvenu.
Un auditeur nous dit, une bonne part de l'administration française et des fonctionnaires ont perdu depuis longtemps la notion de service public, le racisme social, c'est ce dont vous parliez tout à l'heure, Jean-Paul Delevoye, est une vraie réalité. Alors, est-ce qu'on pourrait pas justement se tourner vers, j'allais dire vers l'étranger, c'est le cas de le dire, mais je sais qu'il y a quand même certains pays, notamment en Europe du Nord, qui réfléchissent à l'accueil des étrangers. On a essayé de mettre en place un livret d'accueil, j'ai vu, il est très épais, il est pas mal fait d'ailleurs, un livret d'accueil pour les étrangers, on leur explique un certain nombre de choses sur les droits et les devoirs. Il y a pas des, voilà, des choses dont on pourrait s'inspirer.
Alors moi je voudrais, non pas parce que je suis médiateur, être un peu nuancé, je pense que sur ce
vous
débat...
Vous avez ça dans les veines, la médiature. Hein.
Absolument, mais je voudrais rebondir d'ailleurs sur... Attention de ne pas trop stigmatiser la problématique des sans-papiers. Et je crois qu'effectivement, l'accueil aujourd'hui n'est pas à la hauteur de la grandeur du service public pour les Français et pour les sans-papiers. Mais quand vous êtes sans-papiers, vous avez un handicap supplémentaire. Deuxième élément, il y a des fonctionnaires qui s'investissent, et c'est vrai que dans la problématique de la santé, y compris, j'ai vu un certain nombre de mises en place de traducteurs, y compris dans les prisons, il y a un certain nombre de choses qui se font. Troisième élément, c'est vrai ce que disait Romain Goupil, dans un certain nombre de cas, on a quand même l'impression qu'il y a une espèce de parcours du combattant, et qui fait que on devrait avoir des positions très claires. Le type qui bosse, qui apporte une contribution à la richesse du pays, qui permettra de financer des politiques de solidarité, qui est complètement intégré, etc., etc., on devrait avoir des procédures relativement simples pour dire il y est ou il y est pas. Les choses devraient être claires. Vous avez aussi la même problématique pour les Français qui vivent à l'étranger, quand vous parliez du délai, quand ils demandent le renouvellement de leurs papiers, et je dois aller me rendre bientôt dans l'administration, on leur dit un an de délai. Un an de délai pour des Français. Pas pour des sans-papiers, pour des Français. Et donc je crois qu'effectivement, aujourd'hui, on devrait... Moi, je crois qu'on peut parfaitement concilier fermeté et humanité, à condition d'être juste. On est dans les règles, on n'est pas dans les règles. Mais si on ne sait pas si on est dans les règles ou pas dans les règles, pourquoi imposer un parcours du combattant supplémentaire qui fait que on voit des mamans qui viennent à 4 heures du matin. Dans le parcours administratif, on s'est occupé, ça c'est plus compliqué d'en parler, mais quand vous êtes sans papier, on vous donne des rendez-vous dans 3 ou 4 services différents de Paris. Et après, si vous êtes pris parce que vous n'avez pas de sous dans le métro, parce qu'évidemment, vous êtes en situation d'illégalité. Donc, est-ce qu'on peut pas, entre la régularisation qui vous donne tous les droits et la non-régularisation qui vous plonge aux mains des marchands du sommeil, des exploiteurs de travail, etc. Est-ce qu'on pourrait pas avoir une espèce de carte intermédiaire qui vous permettrait au moins... Voilà.
On discute avec Jean-Paul Delevoye et il y avait eu, au moment de la mobilisation des sans-papiers faite par les cinéastes en 97, une réponse incroyable de Pasqua. Il était ministre de l'Intérieur et il disait, mais un truc de vraiment, alors là, pour le coup, de bon sens, ils sont 150 000, on les régularise, ça évite tous ces guichets et tout. Si jamais il y en a un qui se met hors les droits et les devoirs, à ce moment, est-ce que vous allez voir les gauchistes Richard Moyon, Goupil et tout protester parce que le type a été dealer? Non, vous les régularisez, ils ont une charte, droits et devoirs, ils sont accueillis, ils ne sont pas titularisés, ils ne sont pas français, ils sont régularisés. Et là, du coup, plus la proie des dealers, plus la proie des marchands de sommeil, plus le travail au noir, et on peut effectivement avoir... Mais même ce truc-là de bon sens, annoncé par, c'est quand même pas le plus progressiste qu'on connaisse, qui était Pasqua, disait régularisez-les, et après, comme ça évite toutes ces démarches complètement absurdes, et tout ce à quoi vous cognez, Richard, avec le RESF.
On peut en profiter d'ailleurs pour ceux qui ont envie de soutenir votre action, Richard Moyon, chez RESF. Il y a un certain nombre nombre de manifestations, d'actions qui sont en cours. Un grand concert qui est prévu à Bercy le 18 septembre. On peut déjà prendre date.
Effectivement, il y a un grand concert prévu le 18 septembre à Bercy, qui, en solidarité avec les travailleurs sans papiers, j'en dirai deux mots, et en solidarité avec les familles, de les parents d'enfants scolarisés et les jeunes majeurs, et aussi d'opposition à la future loi Besson, qui est réellement, par bien des côtés, une loi liberticide. Mais on aura l'occasion d'y revenir. Ma préoccupation immédiate, c'est celle des travailleurs sans papiers qui sont en plein dans le sujet, qui sont en grève pour obtenir une circulaire de régularisation qui simplifie et harmonise les conditions de régularisation, démarche avec laquelle toute une partie du patronat est d'accord, parce que les patrons déplorent de la même façon que tel de leurs employés est régularisé avec une démarche patronale et tel autre qui a exactement le même profil, soit ne l'est pas parce qu'il dépend d'une autre préfecture ou qu'il est tombé sur un autre employé.
Mais ça avance un petit peu, non? Il y a déjà 2500 personnes qui ont réussi à être régularisées.
Oui, mais le problème, ce n'est pas d'obtenir la régularisation de tel ou tel. Le problème, c'est d'obtenir une circulaire qui harmonise et simplifie les conditions de régularisation. Pour que c'est pas seulement les 6 000 grévistes qui veulent être régularisés, ils font un geste citoyen, un geste altruiste.
Alors, est-ce que le cinéma pourrait vous aider? Est-ce qu'on peut imaginer un effet qu'on pourrait appeler indigène avec votre film, Romain Goupil? Soyons un peu utopiques pendant
J'espère que non. Parce que indigène, le cas est absolument... Absolument, c'est honteux, inique politiquement. Il regarde le film à l'Élysée et Bernadette se penche à la tête vers Jacques et lui dit « Vous trouvez pas ça un peu quand même injuste ?» Et Jacques se tourne vers elle, c'est reporté entre guillemets, hein, c'est vrai, tout le monde, Boucharel l'a raconté, tous les acteurs, et dit « Ah oui, c'est vrai, vous avez raison, c'est un peu injuste. » 40 ans que toutes les organisations, que tout le monde disait, il y a quelque chose d'injuste
long,
dans le
traitement.
Mais
aujourd'hui, ils ont réussi, c'est au Conseil constitutionnel.
C'est pas à cause de l'indigène, c'est à cause de simplement du Conseil d'État où tout d'un coup les citoyens peuvent poser eux-mêmes contre une loi ou un décret injuste.
Il y a une prise de conscience grâce au
constitutionnel.
Film.
Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est la capacité d'exception de d'anticonstitutionnalité qui permet de pouvoir...
Mais vous imaginez que ils voient un film... que la première dame se penche à l'oreille du président et qui change du tout au tout en fonction du fait du prince. Mais on n'est pas en monarchie, on est dans un état de droit. Et ce qui s'est passé, c'est un exemple très très précis. Une jeune femme qui était battue, qui avait des bleus partout, naturellement, heureusement qu'elle a encore ce réflexe, elle va à la police pour dire « j'ai été frappée, j'ai été battue ». Il regarde son nom, il lui met les menottes, il la reconduit à la frontière. C'était cette Marocaine. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est tellement scandaleux que effectivement, au Palais de l'Élysée, Nicolas Sarkozy dit « mais c'est scandaleux ce qu'a fait Besson ou Hortefeux ». Il l'a fait revenir sur simplement une signature. Mais c'est le déni de tout le droit. Il peut, lui, alors, comme ça, sur une signature, dire « Hortefeux est un crétin » et Besson aussi, ses propres ministres. Donc vous avez, et la police, il a remis tout en cause sur... Mais c'est ce qu'on disait, exactement ce qu'on disait derrière les guichets. Un fonctionnaire peut dire quelque chose, un autre fonctionnaire peut dire « tu n'as pas les papiers, tu as pas si, tue-toi, il t'envoie balader, et toi t'as fait la queue pendant 2 heures et il te renvoie balader ». C'est le fait du prince, même dans les préfectures. Et le plus haut, c'est donner l'exemple au plus haut niveau. Il y a quelque chose d'injuste, mais qui vient idéologiquement, on cherchait les raisons. Si vous avez ce tapisme ambiant, c'est-à-dire... Que
vous appelez ça le tapisme, vous.
Le tapis, c'est-à-dire que le meilleur gagne, l'ambition. Mais ça veut dire quoi, ça, en traduction? Que le plus pauvre crève. Et que ce qui nous intéresse, c'est le bling-bling, c'est les yachts, c'est les milliardaires, c'est le Fouquet's. Mais non, c'est pas comme ça qu'on veut vivre ensemble. On peut pas tout faire, mais au moins, on peut essayer de réfléchir à vivre ensemble autrement.
Alors, nos auditeurs, vous savez, sont très sensibles. On applaudit, allez. Nos auditeurs sont très sensibles aux généralités excessives, on va dire ça comme ça. Il y a Christian à Nice qui nous dit « Je vous envoie un message pour vous dire que le service des étrangers de la préfecture des Alpes-Maritimes fait un très bon accueil aux étrangers. C'est l'occasion de fréquenter ce service une fois par an, car ma femme est étrangère et nous avons toujours été bien reçus. Je voudrais quand même vous le signaler. » Voilà, pour éviter de dire que tout va mal. On est bien d'accord. Et puisqu'on parle cinéma, juste une chose, il y a des auditeurs qui nous demande, mais à partir de quel âge on peut montrer votre film, Romain Goupil, aux enfants? On peut y aller en famille, n'est-ce pas?
Mais il est même, pour une partie du film, si les vieux comme moi, comme Jean-Paul et Richard, bon, Isabelle, je vais rester galant, mais on n'entend pas, il y a des choses que nous, on n'entend pas. Que les mômes entendent, c'est ouais. ce fameux signal qui se font, signal de détresse.
Ah oui.
Entre eux, il se passe avec les portables,
donc
les petits signaux.
On peut emmener les enfants à partir
et
de quel âge?
C'est à 16 000 Hz, c'est-à-dire que nos oreilles à nous n'entendent pas. Donc eux, ils voient leur film. Ils vont même entendre un film différent que nous, adultes, on va regarder. Donc les mômes, ils trouvent des trucs tout simples, de protéger une petite copine, ne pas dénoncer ça. Tous les mômes comprennent ça. Il n'y a pas de souci et pas de... Et nous, comme adultes, on va voir peut-être ce qu'on a oublié de quand on était beau, ou même de cet esprit d'aventure, ou même, allez, on a tous été amoureux, petite fille, petit garçon, et de comment d'un petit mot glissé dans un cartable, c'était l'affaire d'État, l'affaire du siècle. Donc bien sûr que oui,
avec
tout le monde peut y aller.
Tout le monde, à partir de quoi, 8, 10 ans à peu près?
La petite fille qui joue, la plus délurée, la plus parce qu'elle doit tenir tête à la bande, et c'est quand même de la canaille, des tricheurs, des menteurs, des mm-hmm. Des petits voleurs, donc des petits chenapans. Elle a 8 ans, donc quand on la regarde, tout le monde comprend, et nos enfants comprennent beaucoup plus qu'on imagine.
Richard Moyon, merci d'avoir été avec nous. Je crois qu'on a donné les principaux rendez-vous. Hein. On a parlé donc de ce grand concert le 18 septembre, mais bien sûr, on peut se rendre sur votre site internet, Réseau Éducation Sans Frontières, pour voir ce que vous faites au quotidien.
Peut-être un dernier mot quand
oui,
même.
Rapidement.
Monsieur Besson ouvre les négociations pour les travailleurs sans papier vendredi, et il joue la montre. Nous jouons, nous donnons, nous, rendez-vous aux Parisiens sur l'Opéra Bastille, dimanche à 15h, pour que ces négociations s'ouvrent réellement et aboutissent, et que les conditions d'accueil des étrangers deviennent dignes. Pas seulement des sans-papiers, des étrangers. Ce qui se passe dans les préfectures, dans certaines préfectures, est une insulte à la population étrangère,
et
ou
puis,
encore étrangère.
Avant de se quitter, je cite également ce mail qui me semble important de Marion à Perpignan. Attention de ne pas appeler sans-papiers tous les étrangers. Il y a également des étrangers qui sont tout à fait en règle. Jean-Paul Delevoye, merci aussi d'avoir été avec nous. Il y a encore fort à faire, hein, j'imagine, hein, en tant que médiateur de la République. Il y a beaucoup, beaucoup aussi d'appels de gens qui nous disent arrêtez de nous culpabiliser et arrêtez de nous dire que tout va mal.
Je pense que d'abord, il faut rendre hommage à toutes celles et ceux qui, artistes, cinéastes, font appel à la conscience avec leur excès naturel et normal. Et à chaque fois, il faut essayer d'équilibrer les choses. Tout n'est pas à mettre dans le même panier. Il y a des tas de fonctionnaires qui ont envie de bien accueillir. Il y a une organisation qui, quelquefois, freine les fonctionnaires dans leur capacité d'accueillir. Et c'est sur l'organisation du système qu'il nous faut réfléchir. Deuxièmement, il faut afficher des règles très strictes, très claires. Et là, il ne peut pas y avoir de discussion. On est dans la règle, on n'est pas dans la règle.
Et ce qu'on aura bien compris aussi ce matin, c'est que pour changer les choses, il suffit de très très peu de choses, hein, quand même.
Oui, il suffit d'une volonté, d'une écoute. Et je pense que malheureusement, ça n'est pas l'apanage d'une idéologie politique. J'ai vu des gens de toutes les étiquettes avoir des comportements extrêmement égoïstes pour protéger notre confort. Le monde du 21e siècle, c'est vivre avec l'autre, avec un certain nombre de règles qui nous facilitent le vivre ensemble.
Devant mettre Romain Goupil derrière les guichets de la sécurité sociale. Allez, on va se quitter en écoutant un extrait de ce film, Les mains en l'air, qu'on vous recommande. Les mains en l'air avec Valéria Brunier-Tedeschi, Hippolyte Girardot, et on écoute juste après Louis Renan Choisy.
Franchement, ça veut dire quoi? Approuver des parents qui instrumentalisent leurs gosses pour en faire des otages, pour avoir leurs papiers? C'est ça? La bonne conscience? Putain, tu me rends dingue. Tu sais ce que t'es devenu, en fait? T'es devenu une idiote utile. Et ça, ils en ont besoin. Ils adorent ça dans les pétitions, dans les
manifs. Un idiot inutile, voilà.
Ouais, tu sais ce qu'il dit, l'idiot inutile? C'est qu'en fait, t'as réussi ton truc. Tu vas réussir à avoir ton troisième gosse sans baiser avec ton mec. Et d'ailleurs, il est où, celui-là? Hein? Le beau ténébreux. Il s'est barré?
Voilà, je comprends, hein.
petite ma pauvre, l'homme de cire, qu'on écoute à la ronde. 20h04, entre quatre murs et quatre plaques, là où tout n'est plus vraiment, là où tout s'en va, se détraque, dans la mécanique des tic-tic-tac. 20h04, évaporé dans une flaque, peut-être irai-je droit au paradis, mais j'irai tout en vrac, le cœur coincé des articulés au bord d'un lac.
Louis Renan choisi pour clore cette émission de service public. Demain, on parlera des banques. J'imagine aussi que vous aurez beaucoup de messages à nous envoyer. Allez, on se quitte et dans un instant, eh bien, place au Fou du Roi avec Stéphane Bern.
Allô, le conseiller gaz de France Dolce Vita ?
Oui, bonjour.
Voilà, je déménage dans quelques jours et j'ai carrément oublié de m'occuper de mes contrats électricité et gaz naturel. Vous allez me dire que c'est trop tard.
Mais non, détendez-vous. Ah. Vous avez juste à vous connecter sur électricité-gazexpress.fr. Vous pouvez faire votre demande de souscription à tout moment et en quelques clics.
Oui, enfin le souci, c'est que mon ordinateur est dans un carton.
Aucun problème, ce service est également disponible depuis votre mobile.
Mais comment vous faites, vous, pour penser à tout ?
Pour un déménagement réussi, connectez-vous sur électricité-gazexpress.fr.
Gaz de France Dolce Vita, une marque de GDF Suez.
L'énergie est notre avenir, économisons-la.
France Inter, partenaire du Nice Jazz Festival du 17 au 24 juillet au Jardin et Arène de Cimiez avec Earth, Wind and Fire, Goran Bregovic, Buddy Guy, Herbie Hancock, Laurent Garnier, Pink Martini. Retrouvez-les dans le programme musical de France Inter et sur franceinter.com.
Ils ont marqué l'histoire du rock. Retrouvez toute l'histoire des Doors dans When You're Strange avec France Inter. When You're Strange, un film de Tom Vicino raconté par Johnny Depp, actuellement au cinéma. Retrouvez When You're Strange dans les émissions de France Inter et sur franceinter.com.
11h à l'écoute de France Inter. Et on retrouve les infos, le flash présenté par Corinne Audouin.
Déficit record attendu pour la Sécu. Le trou est estimé pour l'année 2010 à presque 27 milliards d'euros. En cause principalement les branches maladie et retraite. Et pour y remédier, le gouvernement continue de plancher sur la réforme des retraites. Le détail du plan sera connu le 15 juin. Mais d'ores et déjà, plusieurs pistes sont évoquées. Une taxe temporaire sur les plus hauts revenus supérieurs à 11 000 euros par mois. Et un relèvement du taux de cotisation salariale des fonctionnaires. 9 500 euros net par mois. C'est ce que touche Christine Boutin, l'ancienne ministre du...